ou à l'intérieur.
Merci beaucoup, Roland Capiche. Je passe la parole à Patricia Roux.
Le mot égalité est maintenant dans toutes les bouches, dans tous les médias, chez tous les politiciens. Dès qu'on doit traiter un sujet qui touche aux hommes et aux femmes, on se targue de l'égalité, on revendique la nécessité d'en référer à l'égalité. Et avec ce mot, finalement ce concept qui me paraît extrêmement flou, derrière lequel on ne sait pas toujours ce qu'il y a, on en arrive à défendre aussi bien le relèvement de l'âge de la retraite des femmes, par exemple, que l'ouverture, l'accès à toutes sortes de professions, un accès plus large qu'il ne l'est aujourd'hui pour les femmes. On pourrait trouver 100 000 exemples comme ça, où, au nom de l'égalité, on fait des choses qui, quand même, au premier abord, sont relativement contradictoires. Et pour notre part, nous nous sommes demandé dans notre recherche comment est-ce que les gens au quotidien, hommes et femmes, gèrent l'écart qu'il peut y avoir entre une norme d'égalité, une référence qui devient permanente mais derrière laquelle on ne sait pas très bien ce qu'il y a, et des pratiques qui continuent à être inégalitaires. Comment est-ce qu'on gère cet écart ? Ça, c'est une question, et la question corollaire à celle-ci qu'on a essayé de traiter, c'est pourquoi les individus, alors en particulier les femmes, ne se révoltent-elles pas davantage contre les inégalités rencontrées au quotidien, que ce soit au travail ou à la maison, dans la sphère publique, politique, etc. On a cerné, je dirais, deux raisons. Ça n'a rien d'exhaustif et il y en a certainement beaucoup d'autres au niveau d'un fonctionnement psychosocial quotidien. On a cerné deux raisons que je vais développer justement aujourd'hui, rapidement. La première, c'est que l'inégalité au quotidien, ça n'existe pas. Ce qu'on vit dans les relations personnelles avec les autres n'est ni vécu ni perçu comme inégalitaire. Je vais y revenir avec des résultats là-dessus. La deuxième, c'est que l'égalité, c'est une façon, parmi d'autres, de concevoir ce qui est juste entre hommes et femmes. Il y a d'autres façons de penser la justice entre hommes et femmes au niveau du quotidien, et je vais aussi y revenir. Ce n'est pas la seule référence que l'on a pour faire ce qu'on estime devoir être fait au travail, à la maison, etc. Alors, dans la recherche, je présente très brièvement la population, que vous sachiez sur quels résultats sur quelle population s'appuient les résultats que je présente. Il y a 400 personnes interrogées, 200 femmes, 200 hommes, tous et toutes mariés, mais on n'a pas interrogé les couples. Il y a un membre dans chaque couple qui a été interrogé, donc si vous voulez, 400 couples touchés par l'enquête. Pour des raisons, simplement, il fallait qu'on soit sûr, en fonction des moyens qu'on avait, que les personnes qu'on allait interroger soient en interaction au moment de l'enquête, vivent un partage des tâches ménagères, une répartition de l'emploi, de l'activité professionnelle et des choses de ce genre, puisque notre enquête allait porter là-dessus. Ces personnes sont représentatives de l'ensemble de la population lausannoise, en l'occurrence. Tous les milieux sociaux, culturels, professionnels sont représentés. Elles ont de 25 à 60 ans. Et elles sont toutes suisses, là aussi, pour éviter de devoir tenir compte de facteurs culturels qui, bien entendu, peuvent avoir de l'importance. Alors, j'attaque tout de suite avec ce qu'on a, un certain nombre de mesures qu'on a mises en place pour évaluer comment l'inégalité est perçue. On a distingué à ce niveau-là deux niveaux de comparaison. Pour dire que quelque chose est égal ou inégal, il faut bien se comparer à quelqu'un. Et on a introduit une comparaison qu'on pourrait dire collective, qu'on fait extrêmement souvent, c'est-à-dire comparer tout simplement les hommes aux femmes. Comparaison intergroupe. Alors, par exemple, on a posé des questions comme dans le domaine ménager, estimez-vous que la situation des hommes est plus enviable que celle des femmes en général ? Dans le domaine professionnel, avez-vous le sentiment que les femmes en général sont plus discriminées ou désavantagées que les hommes en général ? C'est une comparaison collective. Et puis on a introduit une comparaison individuelle, interpersonnelle, qui porte sur la sphère privée, entre guillemets, dans laquelle sont insérées les personnes, c'est-à-dire, est-ce que vous avez l'impression que, dans le domaine des enfants, pour les personnes qui avaient des enfants, estimez-vous que vous, en tant que femme, vous êtes amenée à faire plus de sacrifices que votre conjoint ? On posait la même question à l'homme. Est-ce que vous avez l'impression que votre femme fait plus de sacrifices que vous ? Idem dans le niveau au niveau professionnel, on a proposé une comparaison entre la femme qui travaille et son collègue direct masculin, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Quand on pose la question à niveau... Donc les questions sont exactement les mêmes au niveau intergroupe et au niveau interindividuel, si ce n'est que la comparaison porte sur homme-femme en général, dans le premier cas, et sur soi et le conjoint ou la conjointe dans le deuxième cas. Entre 70 et 75% des hommes et des femmes interrogés reconnaissent que, disent oui en général, ou oui tout le temps, les femmes sont discriminées dans les domaines ménagers, dans le domaine éducatif, dans le domaine professionnel. Cette discrimination est extrêmement visible et admise. Quand la comparaison est ramenée au niveau individuel, ce pourcentage tombe à 45%. 45% de personnes disent être désavantagées sur tel ou tel plan à un niveau personnel. Et sur, dans le domaine professionnel, quand on demande à une femme de se comparer à son collègue masculin, le pourcentage tombe même à 18%. Il n'y a plus que 18% de femmes qui s'estiment discriminées, elles, par rapport à leur collègue masculin, alors qu'il y en a 80% d'entre elles qui estiment que les femmes, en général, le sont. Donc, la discrimination des femmes est largement reconnue sur le plan collectif, mais par contre, dès lors qu'il s'agit d'évaluer la situation personnelle que l'on peut vivre, on minimise l'inégalité. Et c'est pas contradictoire. Ça n'est pas contradictoire, c'est tout simplement que on ne vit pas sa situation personnelle comme inégalitaire. Il y a plein d'autres choses qui entrent en ligne de compte que l'objectif d'égalité. Ça n'est pas la référence pour juger ce qu'on est en train de vivre. Parce qu'au niveau des pratiques des personnes qu'on a interrogées, ben grosso modo, on arrive aux moyennes nationales. C'est-à-dire que 80% des hommes et des femmes interrogés reconnaissent que chez eux, c'est la femme qui s'occupe principalement de toute l'activité domestique. 73% admettent que c'est la mère qui s'occupe des enfants. Et puis, on a, nous aussi, 98% des hommes qui travaillent à plein temps, et on n'en a que 10, là, le taux est très bas, de femmes qui travaillent à plein temps. Sans compter qu'il y en a un tiers qui sont femmes au foyer. Donc, il n'y a pas de doute, la répartition des tâches et des rôles est, disons, déséquilibrée, on ne peut plus dire inégalitaire, puisque les gens ne la vivent pas comme inégalitaire. Et si vous posez la question, en fait, hommes et femmes se montrent extrêmement satisfaits de cette répartition déséquilibrée. Le taux de satisfaction est extrêmement élevé. Ils estiment qu'elle est juste, qu'elle est équitable. Je passe sur un certain nombre de chiffres à ce niveau-là, mais grosso modo, qu'est-ce qu'il en ressort ? C'est que ce soit le travail, l'activité domestique, les enfants, tout se vit au quotidien, plutôt sur le mode de la complémentarité, qui vise, ça s'est exprimé très clairement, l'objectif premier, c'est, dans cette perspective, de maintenir l'équilibre du couple. Ce sont des gens mariés, je rappelle, hein, maintenir l'équilibre du couple, éviter des tensions, s'arranger avec la réalité quotidienne qui est ce qu'elle est et qu'on ne peut pas passer son temps à changer. Et dans tout ça, l'égalité devient un objectif absolument secondaire. Alors ces contraintes évoquées, liées au quotidien, liées à l'organisation ou conjugale ou familiale, sont un argument extrêmement important pour justifier le type d'organisation conjugale qu'on a mis sur pied. On dit qu'on a choisi de s'organiser comme ça, hein, que j'ai choisi de travailler à temps partiel, me dira telle ou telle personne. Et en même temps, ça arrange tout le monde à la maison que je travaille à temps partiel, dira la même personne. Donc, il y a ces deux aspects. On ne peut pas faire autrement en même temps qu'on a un sentiment de choix. J'ai encore 2 minutes. ça va. Alors, on a fait trois scénarios où les gens devaient se prononcer, qui permettent d'aborder ce problème. Grosso modo, on présente un couple qui... Enfin, un couple, ça dépend des situations. Dans certaines situations, pas dans d'autres. Un homme et une femme, parfois en couple, d'autres fois pas, qui... soit vivent ensemble, soit travaillent ensemble, etc., et qui ont un conflit à un moment donné pour la gestion justement du quotidien, la répartition. Il y a trois scénarios, un sur la répartition des tâches ménagères, un scénario sur la garde des enfants dans un cas de divorce, et un scénario sur la répartition de l'emploi dans un cas de récession dans une boîte où il faut tout d'un coup se partager un plein temps. Et il y a chaque fois deux acteurs, un homme et une femme, qui ne sont pas d'accord sur la répartition. Et nous demandons aux personnes interrogées de lire ce scénario et de dire quelle serait, selon eux, la solution la plus juste pour tout le monde. On n'a pas à parler d'égalité. On leur dit qu'est-ce qui vous paraît le plus juste pour régler ce conflit. Et on se rend compte que l'égalité n'est pas la seule manière de faire le juste. Il y a, grosso modo, trois manières, il y en a certainement d'autres, mais nous avons pu en repérer trois façons de faire le juste dans les rapports hommes-femmes. Il y en a une, c'est la parité. Disons, appelons-la comme ça, par référence au débat 50-50, c'est-à-dire les personnes qui disent, bon, il y a 24 heures de ménage à se distribuer, là, dans le scénario, 12 pour la femme, 12 pour l'homme, quel que soit le temps de travail de chacun, etc., etc., les conditions. Idem pour les enfants, pour l'emploi, au moment où il faut se partager un plein temps. Bah, chacun prend le mi-temps. Donc, vous avez à peu près 30% des personnes qui sont sur ce modèle-là. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'ils vivent. C'est un modèle qu'ils défendent. Et puis, on a un deuxième modèle qui est celui de la proportionnalité, c'est-à-dire tenir compte des investissements de chaque conjoint pour déterminer la part qui lui revient dans ses droits et ses devoirs. Par exemple, la femme travaille à 80%, l'homme à plein temps. Eh bien, au niveau de la répartition des tâches ménagères, les personnes qui font ce calcul de proportionnalité, qui raisonnent sur ce mode-là, disent, bon, bah alors, elle fait 20% de plus de tâches de ménagères que lui. C'est une autre forme d'égalité que la première. Elle travaille 20% de moins au niveau professionnel, elle peut faire 20% de tâches ménagères de plus. Mais le fondement de ce raisonnement est complètement différent. Enfin, la troisième façon de faire la justice dans ces rapports qu'on a vus ici est celle qu'on connaît bien, qui est justement relativement critiquée, mais qui touche quand même 40% des personnes, qui est le modèle plus traditionnel, à savoir de s'appuyer sur le statut sexuel de la personne pour déterminer ce qui lui revient. Donc c'est en fonction du fait qu'on est un homme ou qu'on est une femme, qu'en tant que femme, on doit faire le ménage et s'occuper des enfants, et en tant qu'homme, on doit travailler et ramener de l'argent à la maison. Le modèle ici est très, très clair. Donc, je conclurai en disant, ce dernier modèle plus traditionnel représente 40% des prises de position des gens. Autrement dit, il y a une majorité des personnes qui sont favorables à une répartition plus équilibrée des droits et des devoirs entre hommes et femmes. Mais il y a un élément extrêmement important. Quand on demande aux personnes de justifier pourquoi elles ont fait leur répartition selon tel ou tel modèle que je viens de décrire, systématiquement, quand on s'en réfère au statut sexuel de la personne pour déterminer les rôles, on invoque la réalité que l'on vit, ses contraintes, pour justifier et légitimer ce mode d'organisation qui, je le rappelle, correspond au mode d'organisation conjugal dominant dans cette population et dans la société. On invoque la réalité, on ne peut pas changer la réalité, on ne peut pas faire autrement, et c'est un peu le serpent de mer qui se mord la queue. Si vous voulez, dans la permanence et l'urgence du quotidien, est juste ce qui est faisable, tout simplement. Et on doit s'accommoder des inégalités pour que la cellule conjugale ou familiale puisse fonctionner. Ce n'est pas qu'on défend cette manière de faire l'égalité, de faire la justice, parce qu'on croit que c'est la meilleure et la plus juste. Hein. C'est que on fait ce qu'on peut faire et ce qu'on croit devoir faire. Et puis en plus, il faut bien légitimer, sans quoi la vie serait insupportable, il faut bien légitimer le mode d'organisation qu'on a mis en place, hein, dans lequel on est complètement impliqué. Sinon, alors, tout serait remis en question, en péril, et la réalité, à ce niveau-là, constitue un excellent support à cette légitimité. Une phrase pour conclure, je pense que les idées ont avancé du point de vue de l'égalité, mais les comportements, je suis extrêmement sceptique là-dessus, confrontés à une réalité qu'il faut absolument changer si l'on veut que dans la que l'égalité se passe ailleurs que dans la tête des gens, si l'on veut que on croit tout simplement possible de vivre d'une façon plus égalitaire entre hommes et femmes.
Merci beaucoup Patricia Roux. Je passe la parole à Benoît Bastard. Je m'excuse auprès de la salle du petit retard que nous avons pris. J'espère que l'intérêt des exposés vous permettra de raccourcir un peu la pause. Voilà, Benoît, à toi.
Bonjour. Donc, je présente un travail qui a été réalisé par une équipe de recherche dont plusieurs membres sont présents, Viviane Gonick, Laura Cardier-Vonesch, et un est absent, Malik Van Almen. Et nous avions choisi d'intituler cette présentation « Le sexe du travail, un bricolage permanent ». Pour illustrer ce titre, ou ce que nous entendons par ce bricolage permanent, j'aimerais d'abord vous montrer un premier transparent qui est en fait une publicité. La dame dit « Qui sort le chien ce soir ?» Le monsieur « J'y ai déjà été hier. » La dame « Et qui prépare le souper ?» Le monsieur « Bon, je sors le chien. » Donc c'est cette idée que les choses ne sont pas fixées une fois pour toutes et qu'on assiste à des interactions, à des reconsidérations au sujet de ce que sont les identités masculines et féminines. Je continue avec une anecdote qui est tirée de notre travail d'enquête. Un des membres de l'équipe interviewe le responsable d'une entreprise un des responsables d'une entreprise qui est une entreprise dans laquelle on fabrique, j'en reparlerai plus loin, des composants, comment est-ce qu'on appelle ça, informatiques ou électroniques. Et dans cette entreprise, les femmes sont, la plupart des l'entreprise emploie beaucoup de femmes, et beaucoup sont devant une machine toute la journée, c'est un travail répétitif et monotone. Et le sociologue demande, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ce sont des femmes qui font ce type de travail répétitif et monotone? Et le cadre explique que les femmes aiment ça, et qu'au fond, elles sont très bien adaptées par rapport à ce genre de tâches, qu'elles supportent bien la monotonie du travail. Alors, de façon un peu provocante, le sociologue dit « Mais dans l'horlogerie aussi, les hommes sont toute la journée devant leur, je sais pas comment on appelle ça, l'établi, à faire des tâches répétitives et monotones. » Et alors le cadre a tout de suite une réponse, il dit « Mais c'est pas du tout pareil, parce que dans l'horlogerie, l'horloger, lui, il fait toute la montre. » Autrement dit, il requalifie la tâche d'une autre façon qui fait qu'il reste, au fond c'est la même chose, mais il reste une différence qui fait que l'horlogerie c'est un travail homme alors que ce travail de composant, je sais pas quoi, est un travail de femme. Alors, notre enquête porte là-dessus, c'est-à-dire au fond sur cette manière que l'on a de constituer des représentations au sujet du travail des hommes et des femmes qui indiquent que ceci est un travail homme, ceci est un travail femme et comment ça se transforme à travers le temps. Et l'étude a porté sur 3 entreprises de la région genevoise. Et dans un premier temps, je présenterai brièvement ce qu'il y a à dire de ces entreprises au sujet de la répartition des hommes et des femmes dans le processus de travail. Et puis je reviendrai à cette question de comment se constituent, comment se transforment les stéréotypes ou les images que nous avons du travail masculin et féminin. Je présente d'abord ce que sont donc les 3 entreprises et comment elles répartissent les hommes et les femmes dans le processus de travail. La première entreprise, elle s'appelle Alim pour nous, c'est une entreprise qui fabrique, qui transforme des produits laitiers, et on passe, disons, de l'arrivée du lait sur la gauche du transparent par une série de services, de secteurs de travail, d'unités de travail, jusqu'à la fabrication de fromage et de yaourt. Ce qui est important à dire, c'est très simple, c'est qu'au fond, dans cette entreprise, les employés travaillent successivement sur le produit qui passe devant eux et qu'il y a des unités, les premières ici, qui sont constituées uniquement d'hommes et qui sont les hommes qui appartiennent au métier du lait. Ce sont par exemple des fromagers. Et puis ensuite, il y a d'autres unités de travail dans lesquelles on trouve une certaine mixité. Des hommes et des femmes travaillent ensemble, par exemple pour l'emballage et la préparation des commandes. Deuxième entreprise. Le type d'organisation est complètement différent. C'est une entreprise qui a une organisation cellulaire. C'est celle dont je parlais tout à l'heure, qui fabrique ses composants électroniques. La caractéristique de la répartition des hommes et des femmes, au fond, c'est que l'entreprise fabrique différents types de pièces, des grosses et des petites. Les unes sont un peu plus lourdes que les autres, et les hommes, en fait, sont ceux qui fabriquent les grosses pièces. Il se trouve aussi que c'est moins répétitif, il faut faire plus d'opérations différentes, et les femmes, comme je le disais, sont dans les ateliers entre 5 et 11 personnes dans lesquelles elles sont devant ces machines. Troisième entreprise, Média, et c'est une entreprise beaucoup plus complexe. Les 2 précédentes ont quelques centaines d'employés, celle-ci en a 800, et elle a une structure assez compliquée dans le sens où, sur la gauche, transparent, vous voyez, j'ai écrit unité 1, unité 2, on a des unités qui sont vraiment les structures avec lesquelles on travaille, mais qui sont renouvelées périodiquement. C'est là qu'on fabrique le produit culturel qui est le produit de l'entreprise. Et là, il y a une véritable mixité. Les hommes et les femmes travaillent ensemble. Les femmes et les hommes qui travaillent ensemble dans ces unités mixtes proviennent de structures plus permanentes, qui sont des structures par métier, qui, elles, ne sont pas des structures mixtes, qui sont composées principalement d'hommes et de femmes. Je ne sais pas, par exemple, des décorateurs ou des monteuses de vidéos, ou etc. On pourra reparler un peu plus tard de ces structures-là. J'en reviens maintenant à la question de savoir comment, dans ces 3 entreprises, comment se constituent, comment se transforment les images, les représentations que l'on a de ce qui est un travail homme ou de ce qui est un travail femme. Ça va être très bref et schématique, je vous renvoie au rapport de recherche si vous voulez en savoir plus. Dans les 2 entreprises industrielles, les 2 premières, au fond, un des processus principaux par lesquels on assigne à un sexe une tâche, c'est un processus de naturalisation des tâches. On considère que certaines tâches, par nature, reviennent aux hommes et aux femmes par leurs caractéristiques mêmes. J'en donne tout de suite un exemple en ce qui concerne la première entreprise, l'entreprise de transformation du lait. C'est un extrait d'un entretien avec un des responsables de l'entreprise. Ici, c'est le métier, c'est la force physique. À la préparation des commandes, il y a 30 messieurs et 6 dames. Les dames sont assez habiles, mais c'est dur parce que la température est fraîche. Il fait 5 degrés et quand il y a quelque chose de lourd à faire, elles appellent les gars autour. Dans la fabrication des fromages à pâte molle, c'est la chaleur. Pour fabriquer des tomes ou des reblochons, dans les ateliers de fabrication où se fait le caillage, il fait 29 degrés. Autrement dit, si vous voulez, et il fait 29 degrés, et il n'y a que des hommes, les laitiers. Hein. Autrement dit, si vous voulez, c'est à travers le lourd, le chaud ou le froid, les contraintes, que on produit d'une certaine manière l'idée que ici il s'agit d'une tâche qui doit être faite ou qui est faite par des hommes. Ici, c'est une tâche qui est faite par les femmes. Même chose en ce qui concerne la deuxième entreprise, mais j'en ai déjà un peu parlé, je le cite encore. Il s'agit cette fois des caractéristiques de la tâche qui ont trait, comme je le disais tout à l'heure, à la minutie ou à la monotonie du travail. Dans le petit montage où il faut prendre un peu de soin et qui est répétitif, les femmes aiment ça. Elles aiment faire des choses soigneuses répétitives. C'est assez joli, c'est méticuleux. Vous savez, le bobinage, par exemple, ça fait penser aux machines à coudre. Elles aiment ça. Peut-être que ça leur permet de penser à leur famille, à leurs enfants. Dès qu'il s'agit d'un montage plus sophistiqué, c'est différent. Il y a peu de femmes qui aient fait l'apprentissage de mécanicien électronicien et on a des hommes. Bon, vous souriez. Bon, c'est évident qu'on a pris les choses les plus caricaturales, bien sûr. Mais il faut dire un certain nombre de choses à propos de ces stéréotypes. C'est d'abord, ici, c'est ce que disent les représentants des cadres de l'entreprise. Mais ces stéréotypes sont partagés par tout le monde au sein de l'entreprise. Les employés, autant que les cadres, ont ces idées sur quelle tâche revient aux uns et quelle tâche revient aux autres. Il faut le souligner pour nuancer le fait qu'on a utilisé ici des entretiens avec certains responsables. Dans la troisième entreprise, et vous allez voir que c'est intéressant, le stéréotype de à qui revient une tâche masculine et féminine n'est plus fabriqué de la même façon. Ça fonctionne plus à la naturalisation des tâches. Parce que le stéréotype principal ici, c'est que un homme et une femme, c'est pareil par rapport au travail. Qu'il y a égalité et que les gens peuvent travailler de la même manière dans un univers mixte. Alors bon, on a affaire, Roland Campiche tout à l'heure parlait de la valeur égalité ou de l'idéologie de l'égalité. Ici, au fond, les choses sont différentes. On fait en tout cas comme si c'était l'égalité qui était la norme. Pour l'illustrer, je cite à nouveau un des responsables de l'entreprise. C'est donc un des responsables du personnel qui dit « Une fois, j'ai fait changer d'avis la ligne hiérarchique dans un engagement. Ils avaient décidé d'engager un homme qui partait faire son école de sous-officier 8 mois après le moment où on l'aurait engagé. Je leur ai demandé « Si une femme vous dit qu'elle est enceinte d'un mois, qu'elle va être absente dans 8 mois pour accoucher, mais qu'elle reviendra 4 mois après, est-ce que vous la prendriez ?» Ils m'ont répondu non, ça les a fait réfléchir et ils sont revenus sur la décision d'engager l'homme en question. Autrement dit, ici, le stéréotype fort, c'est qu'il faut agir pareil avec les hommes ou avec les femmes. Bon, il ne faut pas idéaliser non plus, dans cette entreprise aussi, il existe certaines inégalités, mais disons que les représentations sont qu'il n'y en a pas ou qu'il ne devrait pas y en avoir. Quelques remarques donc à propos de ces représentations du travail des hommes et des femmes. J'ai dit tout à l'heure qu'elles sont partagées largement dans l'entreprise, qu'elles traversent certains clivages, notamment les clivages hiérarchiques, on les retrouve à différents niveaux. Il faut dire, on peut aussi réfléchir à la manière dont sont construites ces représentations de ce qui est homme ou de ce qui est femme dans un travail, et montrer, on l'a fait notamment avec des observations ergonomiques dans les entreprises industrielles, et montrer qu'au fond, on emprunte certaines caractéristiques à la tâche pour en faire la caractéristique totale de la tâche. Il y a les meules de fromage à porter, c'est lourd, et on dit cette tâche est pour des hommes forts, en gros. Hein. Mais la tâche a bien d'autres caractéristiques qu'on fait disparaître en quelque sorte dans ce processus-là. Et puis un dernier point extrêmement important dans notre analyse, c'est qu'au fond, ces images, ces représentations, ces stéréotypes sur ce que sont les tâches, ils sont extrêmement forts, mais sont changeants. C'est-à-dire qu'au fond, ça se modifie au fur et à mesure que la réalité du travail se modifie. Des exemples, à un certain moment, dans le travail de cette entreprise culturelle, les monteuses sont des femmes, ce sont des monteuses. Puis à un moment, quelques années après, les formations changent, l'accès aux formations change, et voilà qu'il y a des hommes, et la monteuse peut devenir un monteur. À l'inverse, les décorateurs sont des hommes à un certain moment parce que c'est lourd, et puis à un moment après, eh bien, les formations, l'accès aux formations a changé, l'entreprise a changé sa politique, les décorateurs sont des décoratrices et tout le monde trouve ça, c'est normal, c'est comme ça qu'il faut que ce soit. Autrement dit, on peut dire que ces représentations se transforment avec les réalités auxquelles elles renvoient. Et ça, c'est un point important pour notre analyse et j'en arrive à la conclusion, c'est qu'au fond, on a affaire à des représentations extrêmement fortes, extrêmement puissantes, extrêmement ancrées dans le fonctionnement et dans l'imaginaire des gens de l'entreprise, mais en fait, des représentations qui n'ont pas beaucoup d'autonomie par rapport aux réalités, par rapport auxquelles elles renvoient. Ce qui veut dire, et c'est un point important, en termes d'intervention, en termes d'action, que on peut transformer les choses à partir du moment où on transforme les réalités. Par exemple, dans ces ateliers de fromagerie, il y a des entreprises dans lesquelles, on nous le cite en Italie, on a mis une machine pour soulever la meule de fromage, et à ce moment-là, l'argument c'est lourd, donc c'est masculin, disparaît. Et ça ouvre d'une certaine manière l'accès à d'autres personnes que les hommes. Donc ça se transforme et en agissant sur les réalités, on agit sur les images. Dernier point quand même extrêmement important, c'est que en agissant sur les réalités, on agit sur les images et la représentation de ce qui est homme et de ce qui est femme se transforme, mais la représentation qu'il reste des choses qui sont hommes et des choses qui sont femmes est toujours présente. C'est-à-dire que les limites ou les frontières de ce qui est, revient aux hommes et ce qui revient aux femmes sont reportées quelque part ailleurs. Bon, et il y a toujours des idées de hiérarchie, d'ailleurs de hiérarchie dans un sens ou dans un autre. On a affaire à la recomposition permanente d'un rapport de sexe avec toujours quelque part des différences et certainement des inégalités. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Benoît Bastard. Je vous propose de faire une pause dans laquelle on va partager notre retard entre 5 minutes moins de pause.
Je veux bien dire quelque chose. Bon, moi je suis pas spécialement optimiste, disons, par rapport à la situation de crise, enfin qui le serait aujourd'hui de façon générale par rapport à la crise qu'on est en train de vivre. Et je pense que si ces propositions comme celle du Valais, du Tessin auxquelles vous faisiez allusion, peuvent circuler aussi librement qu'elles le font aujourd'hui, c'est quand même pas par hasard. C'est bien qu'elles elles correspondent à... Un fondement de la pensée, de la façon dont on a de concevoir fondamentalement les rapports entre hommes et femmes. Je pense que sinon, on aurait vu des manifestations et des mouvements sociaux émerger, des réactions extrêmement vives. Il y a quelques réactions ici ou là, mais on est loin d'un mouvement social, comme le disait M. Campiche tout à l'heure. Et par rapport à tout ça, je pense que le rôle des... Alors là, je quitte la position de la chercheuse. Le rôle de toutes les personnes, pas seulement les femmes, de mon point de vue d'ailleurs, enfin quand même en premier lieu elles, le rôle de toutes les personnes qui sont conscientes, je veux dire, d'un certain nombre de mécanismes qu'on connaît maintenant bien, dont certains qu'on a pu passer en revue ce matin, mais d'autres encore... Le rôle est de diffuser l'information là-dessus, mais au sein d'un mouvement collectif. Je ne sais pas exactement comment l'appeler, mais tant qu'on ne comprendra pas qu'on fait partie justement de cette collectivité qu'on décrit, on a bien vu, je le disais ce matin, à un niveau collectif, on est d'accord pour dire qu'il y a des discriminations. On s'insurge, on trouve ça injuste. Mais tant qu'on ne considérera pas qu'on fait partie en tant qu'individu de cette collectivité, et donc tant qu'on ne réagira pas collectivement, je pense que ça sera difficile de sortir de cette crise. Donc dans ce sens-là, je suis sur le retour au foyer des femmes, l'utilisation que l'on peut faire avec le chômage de la position de la femme. Je suis assez pessimiste tant qu'on ne se bouge pas plus largement, quoi.
Moi, je vais peut-être, j'aimerais aussi répondre sur le long terme, enfin un terme un peu plus long. Là, de nouveau, on retrouve un peu des éléments de ce que j'ai dit. Par exemple, le fait que ce phénomène de substitution, moi, j'y vois deux réponses. Une réponse à court terme, c'est celle de résister. Alors là, c'est très important que les femmes soient unies entre elles, par exemple, les femmes qui défendent leur poste de travail et les femmes, les épouses de chômeurs, par exemple, parce que les réactions les plus vives actuellement contre le travail des femmes viennent souvent de la part d'épouses et de mères de chômeurs. Donc ça, c'est quand même un élément qu'il faut prendre en considération et le dialogue devrait s'instaurer entre ces deux groupes. À long terme, se pose le problème des qualifications dont j'ai parlé dans mon exposé, qui me semble très important et que nous observons en histoire. Si nous observons les statistiques dont je vous ai parlé, les recensements, nous voyons que les femmes très qualifiées, c'était là donc la fin du XVIIIe siècle à Genève, celles qui avaient un travail bien précis dans l'horlogerie, ne perdent pas leur poste. Et elles restent, parce qu'elles sont irremplaçables. Alors les femmes devraient être irremplaçables. Alors là, j'aimerais introduire quand même un élément du présent et Oui, mais enfin, on peut quand même le dire. Oui, mais si je peux poursuivre, on peut quand même rêver. Alors, j'aimerais quand même dénoncer, là, quand même, que j'ai aussi, sur lequel j'ai insisté dans mon exposé, c'est l'effet d'entraînement, l'effet cumulatif. Le fait que ce ne sont pas toujours des causes directes qui font qu'une femme n'est pas en position de se défendre. Je donnerai un exemple que je vis personnellement, parfois dans les structures universitaires, ou que j'observe, c'est-à-dire que les femmes sont à temps partiel, ont un revenu inférieur à celui des hommes. Par conséquent, elles ne sont pas en état toujours de s'équiper du point de vue de l'informatique. Résultat, elles mettent du temps à s'informer, à être au courant de ce qui se fait. Eh bien, c'est évidemment pas à elles qu'on donnera les meilleurs appareils dans le département. Alors, l'effet cumulatif, c'est qu'elles n'ont pas réussi à acheter un appareil, elles ne connaissent pas les derniers logiciels, et par conséquent, on ne leur donne pas les ordinateurs qui sont capables qu'elles pourraient utiliser pour des recherches plus compliquées avec des logiciels qui demandent plus de surface. Toute notre vie est faite de ces petits détails qui s'accumulent et qui font qu'au moment où la crise économique se déclenche, eh bien, nous ne sommes pas en mesure de résister. Un autre effet cumulatif, c'est celui, par exemple, de la retraite des femmes, la retraite de toutes ces femmes qui sont à temps partiel. Moi, je me demande ce que ça va donner dans 15 ans, mais comme je sors de mon domaine historique, eh bien, je vais m'arrêter là.
Moi, j'avais une question complémentaire, Madame Roux. En fait, je me demandais dans la mesure de cet écart, niveau groupe, niveau individuel ou entre normes et pratiques, si vous avez constaté des différences entre hommes et femmes. Parce qu'il me paraît que c'est quand même pas la même chose que de dire qu'on est satisfait d'une situation qui nous conforte et qui nous valorise, celle de l'homme, que de dire qu'on est satisfait, peut-être de manière défensive, d'une situation qui nous discrimine.
Tout à fait d'accord, c'est avec vous, c'est pas la même chose, on part pas de la même position et du même point de vue. Et effectivement, on a des différences entre hommes et femmes, dont j'ai pas parlé ce matin, j'ai présenté des résultats globaux. Mais bon, accrochez-vous, dans l'ensemble, les femmes sont plus pour la division sexuelle du travail, c'est-à-dire pour s'attribuer les tâches ménagères, pour s'attribuer l'éducation des enfants, la garde des enfants, garde, divorce, etc., que les hommes. Grosso modo, on a pas mal d'indicateurs qui vont dans ce sens. Les hommes sont plus pour, si on ose dire, l'égalité. Quoique le mot est un peu fort, on l'a vu. Les hommes reconnaissent plus, si vous voulez, quand vous posez la question, est-ce que vous estimez que votre mari, puisque là, ce sont des gens mariés, ont fait plus que les autres hommes? Mais l'écrasante majorité des femmes vous disent oui. Les hommes, nettement moins, quand vous leur demandez s'ils en font plus que les autres, eux aussi disent oui, mais c'est nettement plus timide. Bon, ça c'est un... Il y a un problème déjà, c'est que par comparaison avec les autres, on a l'impression justement au niveau individuel qu'on fait déjà mieux. Hein. Mais si les hommes disent de façon générale, reconnaissent davantage l'inégalité au niveau de leur quotidien personnel, par exemple. Je pense que c'est la marque de tout ce débat sur l'égalité qui, quelque part, les culpabilise, d'une certaine manière. Il y a une prise de conscience. Ils ne sont pas dans la même position que les femmes. Ils se doivent de reconnaître qu'il y a quelque chose qui cloche. Ils peuvent pas, on ne peut plus impunément dire que tout ça c'est très bien et que c'est normal. Tandis que les femmes sont dans une position complètement différente, c'est comme ça que je m'explique le fait qu'elles renforcent encore cette division sexuelle du travail, du point de vue idéologique et au niveau des pratiques, c'est qu'elles doivent défendre. Elles doivent défendre une position qui, de toute façon, leur est assignée. C'est une question d'identité sociale, quelque part, et d'identité personnelle. Il faut baliser un terrain sur lequel, de toute façon, vous êtes confiné. Qui a le choix de travailler à plein temps, de ne pas s'occuper des enfants, de laisser le ménage à son mari? Pas grand monde. Pas grand monde. Alors... deux mots, je vais rajouter quelque chose pour, dans le prolongement juste de cette expression sociale de l'inégalité. Par rapport à ce que j'ai dit ce matin, on constate quand même qu'il y a une corrélation entre la reconnaissance de l'inégalité au niveau personnel et le sentiment d'insatisfaction. C'est-à-dire plus je reconnais qu'au niveau de mon quotidien avec un collègue, avec le conjoint, etc., il y a inégalité du côté des femmes, hein, plus je suis insatisfaite de la situation que je vis. Et on peut attendre, si justement on arrivait à donner plus de moyens aux femmes de reconnaître que ce qui se passe n'est pas si normal que ça n'est pas si juste et équitable, on peut penser que ce sentiment d'injustice qui croît donnerait lieu effectivement à une réaction à l'injustice. Dans ce sens-là, il faut pas désespérer. En passant, quelque chose de très intéressant, c'est que cette corrélation très forte, on la trouve chez les femmes, dans notre étude, absolument pas chez les hommes. Il n'y a aucun lien entre la perception de l'inégalité chez les hommes, qui est plus forte, donc je l'ai dit, hein, ils la reconnaissent davantage, il n'y a aucun lien entre cette perception de l'inégalité et leur sentiment de satisfaction. C'est deux choses complètement détachées où on en revient à tout ce qui est déterminé par la position qu'on occupe dans ce rapport de domination. Quoi. Il faut dire que pour un homme, se dire insatisfait de cette inégale répartition, c'est aussi, ça serait aussi dévaloriser le travail domestique, éducatif, etc., que fait sa conjointe, en l'occurrence. Il y a aussi un souci de valorisation de ce qu'est fait l'autre, qui peut avoir des effets pervers, mais...
Moi, je vais, en continuant ce qu'il vient de dire, ou peut-être plus provoquant, peut-être, je ne sais pas, je voudrais parler des hommes une seconde, c'est-à-dire que je réagis à propos du partage du travail tout à l'heure. C'est vrai que, comment est-ce qu'on peut faire pour que les nouvelles idées autour du partage du travail ne reviennent pas à renvoyer les femmes à la maison? Ou comment est-ce qu'on peut faire pour que, on a pas mal travaillé sur cette question de recherche, la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle ne soit pas simplement une histoire de femmes, en fait, mais ce soit aussi un problème pour les hommes, d'une certaine manière. Hein. Ça, c'est des questions qu'on se pose. Et dans ce cas-là, pour que ce soit ça, il faut sans doute qu'il y ait des choses qui bougent du côté des hommes. C'est-à-dire, en particulier, que sans doute les hommes investissent plus la sphère privée, s'y intéresse plus, ils voient plus qu'est-ce qu'ils peuvent y faire. Corrélativement, qu'ils investissent moins la sphère publique ou la sphère professionnelle, comment est-ce qu'on peut faire ça? Ce n'est pas une chose évidente. Et du coup, il faut aussi faire quelque chose du côté certainement des femmes, parce qu'il faut sans doute que les femmes investissent plus la sphère publique, la sphère professionnelle, tout le monde est d'accord, mais peut-être qu'elles investissent moins, d'une certaine manière, la sphère privée, et qu'elle valorise un peu plus ici les prestations de l'autre. Bon, on peut discuter ça aussi.
J'aimerais aussi compléter quelque chose par rapport à la recherche que Benoît Bastard a présentée par rapport à ce fameux retour des femmes, cette crainte de retour des femmes au travail, en tout cas dans notre enquête, et cela absolument dans tous les dans toutes les situations professionnelles, les femmes tiennent beaucoup à leur emploi. Ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'elles ne critiquent pas leur travail. Et ça, c'est aussi peut-être quelque chose de nouveau par rapport à une problématique qui était dans les années 70. On parlait du droit au travail pour les femmes, un droit à un travail intéressant et valorisant, alors que les femmes qu'on a interrogées, elles trouvent que l'emploi, avec toute l'autonomie financière et sociale qu'elles proposent, est intéressant en soi, et ça peut se lier avec le fait qu'on n'aime pas nécessairement son travail. Et il y a, en tout cas, parmi les femmes qu'on a interrogées, je dis que c'est, et on avait exactement le même discours chez l'ouvrière des fromages ou celle de l'électronique que chez la femme très formée chez les médias. C'était le même discours, c'est-à-dire apprécier son emploi par toute la liberté que ça donne, tout en pouvant critiquer les conditions de travail, ce que je trouve une problématique intéressante en soi.
Non, regarde ces différents modèles que vous nous avez montrés, ce modèle soit du 50-50, soit de la proportionnalité, soit de, du modèle, disons pour faire court, que vous appelez traditionnel. Alors, je sais bien que, je pense qu'en bonne chercheuse, vous êtes bien gardée de hiérarchiser ces modèles, mais la question que je me poserais, moi, c'est en termes d'études du dynamique, d'une dynamique de changement, est-ce qu'il y a tout de même des sortes de stades, si vous voulez, dans ces modèles? Est-ce que dans le temps, le modèle traditionnel, on pourrait imaginer que par définition, il est plus ancien et que progressivement, les deux autres peuvent lui faire face, lui prendre la place. Mais ce que je trouvais aussi intéressant, c'est aussi de savoir dans quelle mesure est-ce que une même personne va considérer comme son modèle, est-ce que son modèle peut être différent suivant les domaines de la vie quotidienne que vous avez étudiés. Alors, moi, je suis toujours intéressée aux différences individuelles et je me demande, dans le fond, la brèche, si brèche il y a pour changer de modèle. Est-ce qu'elle peut venir, par exemple, à travers le modèle choisi pour les activités quotidiennes versus pour l'éducation des enfants? Est-ce qu'il y a des différences intra-individuelles, en quelque sorte?
Extrêmement peu. Extrêmement peu de différences, et ça s'explique, en fait, parce que le niveau individuel des relations qu'on peut former toutes, et on comprend qu'on ne dissocie pas l'ensemble des activités qui composent l'organisation familiale. Donc, il y a des ponts très très clairs entre la position qu'on va prendre dans le domaine du travail, dans le domaine des enfants, etc., etc. Il y a peu de différences intra-individuelles. Mais, par rapport à ça, il y a quelque chose qui m'a paru intéressant. Mais je ne retrouve pas quoi. La première partie de votre intervention avait suscité, j'ai oublié, je suis partie là-dessus. Au point de vue de l'évolution, je pense que pour moi, le modèle, entre guillemets, sont des normes de justice, en fait, que les gens appliquent dans la décision qu'ils prennent pour répartir les droits et les devoirs. Donc, ces normes, la parité et la proportionnalité, sont bien évidemment très liées à l'impact de la référence plus générale à l'égalité. Ce sont deux formes d'égalité. On a beaucoup discuté avec les gens, il n'y a pas de doute, c'est bien ce projet-là qui est défendu derrière. Mais ce sont deux formes différentes. Et je dirais que l'une, la parité, repose quand même sur l'idée qu'il faut transformer les rapports individuels, que ça soit au travail ou que ça soit à la maison. Qu'il faut considérer que les groupes sociaux ne sont pas symétriques et qu'il faut renverser cette asymétrie ou la supprimer, plus exactement que la renverser. Tandis que l'autre, la proportionnalité, part de l'idée que l'égalité des chances, ça existe, que les groupes sociaux, d'une certaine manière, sont symétriques. Et donc, à ce niveau-là, à un fondement, je trouve, extrêmement différent. Et ça me paraît, quand on parle du principe d'égalité, toujours justement, sans définir exactement ce qu'on entend, je trouve que on peut en tirer quelque chose, quoi, de ça. Si déjà on perçoit que dans la tête des gens, il y a des formes d'égalité hein, qui équivalent à des formes de justice qui sont extrêmement différentes, on peut bien comprendre pourquoi, dans des rapports de force au sein de la société, il y a effectivement, derrière le mot égalité, des formes concrètes de rapports entre hommes et femmes qui sont visés, mais extrêmement différentes les unes des autres. Il faudrait clarifier ça. Quand on dit au nom de l'égalité, on va faire ceci ou cela, je crois qu'il faut dire qu'est-ce qu'on vise. Est-ce qu'on vise un maintien des rapports sociaux tels qu'ils sont? Est-ce qu'on vise un changement de ces rapports, une transformation de ces rapports? Il faudrait que ce soit beaucoup plus clair. Je pense que c'est quand même, pour redonner un gain d'optimisme à tout ça, parce qu'on m'a beaucoup dit à la pause que c'était désespérant, ces résultats. Je pense que là, il y a là quelque chose justement d'intéressant et de positif, c'est-à-dire que l'idée d'égalité, quand même, elle a percé, c'est relativement nouveau, c'est lié à ces dernières années, même si ça n'a pas encore d'influence sur les pratiques. Parce qu'alors qu'au niveau idéologique, vous défendiez la parité, la proportionnalité ou
le statut, la fonction de la personne en fonction de son sexe, les pratiques sont les mêmes. La division concrète du travail et professionnel et des tâches sont exactement les mêmes, quel que soit votre modèle. Donc reste une distance, parce que justement on trouve toute une série de justifications à ce que les choses se passent comme ça, quoi.
Alors, cet après-midi, la table ronde est centrée sur le thème « Penser différemment pour penser les inégalités ». En effet, à partir aussi des différentes recherches, comme vous avez pu le voir ce matin, les recherches sont parties de domaines très différents, et notre problématique était de comment, quel fil conducteur trouver entre ces différentes recherches. Et nous sommes penchés sur la question à la fois des concepts de recherche et de la méthode. Parce qu'en effet, l'essor de ce qu'on a appelé les études femmes, par une traduction un peu bâtarde de Women's Study anglo-saxon, ou encore ce qu'on peut appeler les études sur les rapports sociaux de sexe, font ressortir des points de vue inédits et réinterrogent à la fois tout le champ de la recherche et du savoir en sciences sociales. En premier lieu, elles ont mis en lumière des thématiques nouvelles. Le premier, c'est bien sûr le travail ménager, qui était totalement occulté dans les recherches en sciences sociales, mais aussi la violence contre les femmes ou le harcèlement sexuel, dont il a même fallu, si on peut dire, inventer une définition. Tous ces aspects de la situation des femmes, très concrètement vécues et souvent même douloureusement vécues, étaient totalement ignorés des sciences sociales. En deuxième lieu, les études femmes ont également remis en question des divisions classiques entre des champs de la recherche. Comment parler en effet de différence entre sociologie de la famille ou sociologie du travail en ce qui concerne les femmes quand on sait, et on l'a bien vu ce matin, que l'insertion professionnelle des femmes est totalement dépendante et ne peut s'interpréter qu'à la lumière de ces stratégies familiales. Et finalement, les chercheuses et les quelques chercheurs, il y en a, on s'en félicite, se sont aussi affrontés aux méthodes et aux données. Et on peut dire qu'en tout cas, en ce qui concerne les femmes, les données ne sont pas données. Et on peut se rappeler qu'il y a quelque temps, et pas si longtemps que ça, dans les statistiques nationales, les femmes au foyer étaient comptabilisées parmi les autres inactifs. C'est un peu sur cette thématique donc que vont s'exprimer nos oratrices et nos orateurs, notre orateur cet après-midi, en parlant à la fois, par exemple, Christine Delberger abordera la question du travail atypique, et déjà le titre pose tout le problème, pourquoi atypique, quand on sait, si c'est par comparaison avec quelque chose de typique qui est plutôt le travail masculin. Le professeur Yves Flukiger nous parlera de la question des inégalités salariales et il montrera bien aussi comment il a dû inventer toute une problématique et une méthode pour mettre en évidence ces inégalités. Lucienne Gillot nous parlera de la violence familiale et Madame Elisabeth Pagnossien-Aligaskis de la question d'élaborer des méthodes pour évaluer le travail domestique. Alors, je donne la parole à Christine Delsberger. On fera un peu la même chose que ce matin, donc les quatre exposés d'un quart d'heure et j'espère qu'on respectera les horaires, suivis d'une discussion, donc d'une pause et ensuite des discussions. Pour des raisons très pratiques, parce que Monsieur Flukiger doit partir, malheureusement, il a un cours, tout de suite après, réservez vos questions à Monsieur Flukiger et elle sera le premier à répondre à vos questions.
Oui, alors voilà. Donc, je vais vous présenter quelques réflexions à partir de la recherche que j'ai effectuée. Et ces réflexions tournent, comme on m'a demandé d'ailleurs, autour un peu de la méthode ou, si vous voulez, de l'approche spécifique. Alors, donc ma recherche porte sur le marché du travail, c'est-à-dire sur les inégalités existantes sur le marché du travail. Et cette approche est un petit peu, on ne peut pas dire originale, mais quand même, jusqu'à présent, on n'en voit pas tellement. C'est-à-dire, on s'attaque aux formes d'emploi et au type d'insertion des femmes dans le travail professionnel. Il y a beaucoup de recherches, enfin, il y en a de plus en plus qui traite des inégalités hommes-femmes sur le marché du travail. Ces recherches souvent portent sur des aspects de ségrégation professionnelle, ce qui est un domaine très important, les inégalités salariales dont on parlera tout à l'heure, ou bien des problèmes de niveau de formation différents entre hommes et femmes, ou bien encore, dans un sens d'approche plutôt psychologique, de comportement et de fonctionnement au niveau des entreprises. L'approche que j'ai choisie, donc, s'attaque au type d'emploi ou aux formes d'emploi que les femmes et les hommes, dans lesquelles les femmes et les hommes se trouvent sur le marché du travail. Pourquoi cette approche? On note effectivement depuis une bonne vingtaine d'années ce qu'on appelle une diversification des formes d'emploi qui apparaissent un peu partout dans les pays industrialisés, c'est-à-dire l'emploi salarié à temps partiel avec contrat de durée illimitée devient, de plus en plus rare. Bon, il est encore tout à fait dominant, mais il y a d'autres types d'emplois qui surgissent de plus en plus. C'est un phénomène assez général. Ce sont d'abord évidemment l'emploi à temps partiel, ce qui est l'élément le plus important, mais également les emplois avec contrat de durée déterminée, ou encore, plus récemment, une augmentation qu'on note nouveau pour l'emploi indépendant, souvent des formes d'emploi de petits indépendants. Donc, ça, c'est un constat général, et on voit partout, dans tous les pays, que les femmes, évidemment, sont beaucoup plus concernées que les hommes par ces formes d'emploi que j'ai appelées atypiques, mais en fait... C'est comme ça un terme, pas très utile d'ailleurs. Alors, l'hypothèse était de dire ces formes d'emploi qui se distinguent de la forme dominante qui est celle de salarié à plein temps peuvent être un élément d'inégalité, voire de ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail. Hein. Donc, c'est un peu le point de départ. Donc, c'est un élément, ça pourrait être un élément très important de maintien des inégalités sur le marché du travail. Alors, mon étude a porté sur la situation en Suisse au début des années 90 et s'est faite à partir de statistiques qui sont donc disponibles à partir d'enquêtes faites au niveau officiel. Donc, s'appelle l'enquête suisse sur la population active, qui existe depuis 1991 et qui se fait régulièrement chaque année et qui donne des résultats représentatifs au niveau de la Suisse. Alors, pour la délimitation de ces formes d'emploi qu'on peut appeler atypiques, je vais pas m'arrêter trop là-dessus, c'est pas du tout évident quelle forme d'emploi on déclare atypique, c'est différent de la norme ou lesquelles sont, le sont pas. Donc, moi, j'ai simplement distingué d'un côté l'emploi salarié à plein temps, un emploi fixe, et de l'autre côté, toutes les autres formes d'emploi qui sont essentiellement l'emploi salarié à temps partiel, l'emploi de durée limitée avec un contrat de courte durée et l'emploi indépendant. Donc, c'est grossier, disons, c'est pour avoir une délimitation claire. Alors, par la suite, je vais vous présenter deux, trois réflexions qui se concentrent uniquement sur l'emploi à temps partiel, l'emploi salarié avec contrat fixe. Pourquoi ? Parce que en Suisse et dans beaucoup d'autres pays aussi, mais particulièrement en Suisse, c'est de loin le type d'emploi le plus important. Alors, pour donner une idée de la grandeur, donc de l'importance, je vais juste vous montrer un transparent. Donc, vous voyez donc l'importance que prend cette forme. Donc vous voyez ici pour les femmes, c'est l'emploi salarié fixe à temps partiel. Vous voyez l'importance que ça prend. Vous voyez également que les autres formes d'emploi que j'ai définies sont résiduelles. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus aujourd'hui. Donc, ça pour insister sur l'importance. Alors, on retient donc, on a donc retenu cette forme d'emploi très répandue pour les femmes, bien entendu, par pour les hommes, et on a regardé en comparant ces emplois à ceux qui sont à plein temps, toujours pour les femmes, est-ce que on remarque une des grandes différences, donc toujours pour répondre à l'hypothèse ou disons à la question, est-ce que cette forme d'emploi peut être une entrave à la promotion professionnelle des femmes? La réponse, évidemment, elle est oui, mais ça se manifeste assez clairement qu'il y a des différences, cependant les différences sont relativement petites. C'est-à-dire, cet emploi à temps partiel, il faut encore le définir. Vous avez là-dedans des personnes qui travaillent par exemple à 90%, aussi bien que des personnes qui travaillent à 10%, donc taux d'occupation. Et ça... C'est relativement important, ça montre, en fait, vous voyez, donc il y a toute une étendue de différents de taux d'occupation. Donc c'est toujours la situation des femmes en Suisse en 93, et on voit donc que tous les taux d'occupation sont possibles. Et ce qu'il faut retenir, c'est donc le nombre de femmes qui travaillent à temps partiel, mais moins... 50% sont très très nombreuses. Donc il y a à peu près la moitié, disons en gros, la moitié des femmes en Suisse qui travaillent, comme on dit, qui ont une activité professionnelle, travaillent à temps partiel, en gros. Et parmi celles-là, il y a encore la moitié qui travaillent peu d'heures, c'est-à-dire avec un taux d'occupation inférieur à 50%. Donc ça, il faut le retenir. Alors maintenant, ce qu'on a constaté... dit un peu rapidement que en fait les emplois à temps partiel toujours des femmes qui ont un taux d'occupation d'au moins 50% sont étonnamment proches des emplois des femmes toujours des femmes à plein temps, tandis que les emplois de peu d'heures sont vraiment clairement de moins bonne qualité. Donc c'est là qu'on trouve le plus de femmes peu qualifiées. Tandis que ça c'est un peu schématique, tandis que les emplois à temps partiel, mais d'au moins 50%, ressemblent énormément aux emplois féminins à plein temps. Mais, par contre, ce qu'on constate aussi, c'est que en gros, tous les emplois à temps partiel, féminins toujours, sont désavantagés au niveau hiérarchique. Donc vous savez... C'est une chose qu'on sait intuitivement, mais qui se confirme, que vous avez très très peu de postes hiérarchiques dans les emplois à temps partiel. Et ça, c'est valable pour toute la gamme. Et évidemment, plus qu'on s'approche des emplois de peu d'heures, plus qu'on descend avec les heures, moins il y a de personnes qui ont des fonctions hiérarchiques. Donc là, il y a vraiment un problème. Il faut voir, les emplois à temps partiel ne sont pas des emplois non qualifiés. Ça, on l'entend des fois, c'est faux. Ça peut être des emplois très qualifiés, mais ce sont des emplois féminins et sont des emplois le plus souvent sans fonction hiérarchique. Alors voilà, quand on a constaté ça, il faut aller encore un peu plus loin. Maintenant, on peut pas s'arrêter là. Parce que ça nous dit pas assez de choses sur le fonctionnement du marché du travail. Alors, ce qu'on a fait par la suite, c'est introduire une analyse qu'on appelle longitudinale. C'est très intéressant parce que pour les emplois féminins, donc pour le comportement des femmes sur le marché du travail, on sait très bien il y a ce problème des arrêts. Donc des femmes qui arrêtent leur activité professionnelle pendant un certain temps, plus ou moins longtemps, des reprises, etc. Donc c'est cette fameuse caractéristique des femmes, des trajectoires des femmes sur le marché du travail qui est pas linéaire, mais qui est très souvent interrompue. Le plus souvent, évidemment, pour des raisons familiales. Alors on a, donc avec les données qu'on a,
ça a permis de voir un peu l'évolution dans le temps. Et je pense là, c'est un apport méthodologique très, très intéressant. Donc, si vous voulez étudier les trajectoires dans le temps des personnes, vous avez en principe deux possibilités. Une, c'est celle des enquêtes qu'on appelle par panel. Donc, c'est des enquêtes qui se répètent à intervalles réguliers. Par exemple, ici, chaque année. Et on garde les mêmes personnes dans l'échantillon. Bon, il y a un petit renouvellement, dans le cas présent, d'à peu près 20%. Mais une personne, en principe, peut rester 5 ans dans l'enquête. Donc, on peut suivre un peu ses trajectoires. Il y a aussi une autre méthode, évidemment, c'est celle des biographies. Donc, on interroge les femmes de manière rétrospective. On leur pose des questions. Qu'est-ce que vous avez fait dans 2 ans, il y a 3 ans, etc. Alors, j'ai donc regardé un peu ces passages. Donc, ici, sur une courte durée de 1 année, 2 ans. Et on a pu constater 2-3 choses qui sont intéressantes dans notre contexte, donc toujours en lien avec le travail à temps partiel. On peut voir que chez les femmes, souvent, il y a ce fameux passage du plein temps au temps partiel. C'est quelque chose qui existe quasiment ou très peu chez les hommes, mais qui est assez courant chez les femmes. Donc vous avez un passage du plein temps au temps partiel. Dans le sens contraire, il y a très peu de passages. Ça existe aussi, mais c'est beaucoup moins courant. Alors, ça veut dire, évidemment, les femmes qui occupent le travail à plein temps sont souvent les mêmes qui occupent par la suite, quelques années plus tard, un travail à temps partiel. Ceci est intéressant parce que une fois on sait ça, on peut pas opposer d'un côté travail à plein temps au travail à temps partiel. On peut pas dire bon ben il y a des emplois féminins à plein temps qui donnent certaines qu'on peuvent donner un accès à des postes disons plus élevés. En fait, il faut pas voir la chose comme ça. Il faut voir que justement il y a ce passage. Bon, c'est évidemment pas toujours le cas, mais c'est très courant. Donc, ceci explique aussi pourquoi ces emplois que j'ai donc caractérisés, qui sont à temps partiel, sont relativement proches du plein temps pour les femmes. Et ceci, évidemment, nous dit aussi que le problème de la position hiérarchique, Il faut le voir dans le temps. Donc, si une femme rentre sur le marché du travail, elle a déjà dans la tête qu'un jour elle va travailler à temps partiel, son employeur peut-être aussi, eh ben c'est déjà mal parti, on peut dire. Cette analyse longitudinale a encore permis, il a encore permis beaucoup de choses, mais elle a aussi permis de montrer la différence des emplois féminins et des emplois masculins à temps partiel. L'emploi féminin à temps partiel, c'est un emploi très stable, avec peu de changements. Donc, par exemple, une année plus tard, on trouve 80% des femmes toujours dans le même type d'emploi. Par contre, si on analyse dans le temps les emplois masculins à temps partiel, qui sont toujours très peu nombreux, eh bien, on trouve déjà que 50% des hommes ne se trouvent plus dans cet emploi à temps partiel. Ils se trouvent soit à la retraite, soit dans un emploi à plein temps, par exemple. Donc ça, là, on voit, grâce à cette méthode aussi, on voit des différences fondamentales de comportement des deux sexes.
Il faut conclure, je m'excuse.
Alors, donc c'est un peu les deux aspects que j'aimerais montrer. Donc, d'une part, l'approche des inégalités sur le marché du travail par le type d'emploi, et d'autre part, l'importance de prendre en compte ces trajectoires. Voilà, et tout ça, évidemment, à la fin, renvoie, évidemment, à la division sexuelle du travail au sein des couples. Voilà, mais je m'arrête là.
Merci.
Bien, je donne maintenant la parole à Monsieur Yves Flukiger, qui nous parlera donc de l'analyse des différences de salaire entre femmes et hommes, aspect méthodologique et nouvelles perspectives.
Alors, tout d'abord, merci de m'accueillir parmi vous et je m'excuse d'ores et déjà de devoir m'absenter tout à l'heure à 16h. J'ai malheureusement un cours à donner tout à l'heure. Donc, comme le titre le dit, nous avons essayé de travailler sur les différences de salaire entre hommes et femmes. Pourquoi cette étude sur les différences de salaire? Je crois qu'il y a en fait un certain nombre de justifications, en tout cas à nos yeux, qui nécessitaient une telle étude. Tout d'abord, le fait que même si cette chose-là vous paraît évidente et quelque part un peu banale aussi, je crois que c'est toujours important de montrer à quel point il existe encore aujourd'hui des différences de salaire importantes entre les hommes et les femmes et à quel point le marché du travail aujourd'hui en Suisse, comme à Genève, reste en bonne partie discriminatoire à l'encontre des femmes. C'est un message assez évident, mais c'est un message particulièrement difficile à faire passer parmi les économistes et encore plus difficile parmi les économistes qui sont hommes. Donc je crois que nous avons fait aussi un pas dans cette direction-là pour convaincre effectivement un certain nombre de gens qui restent perplexes sur l'existence de cette problématique. Le deuxième intérêt peut-être de cette étude, c'était de pouvoir comparer la situation de Genève sur la base des données que nous avions pu extraire d'une enquête pilote qui avait été faite en 1991 sur la base de 50 000 personnes du secteur public et privé à Genève, hommes et femmes, dont on avait non seulement le niveau de salaire, mais également les caractéristiques individuelles. Et nous avons également travaillé avec la même base de données que Mme Detzberger sur le niveau suisse, en utilisant cette enquête sur la population active, pour laquelle on a aussi des informations sur 10 à 16 000 personnes au niveau suisse. Le troisième justificatif de cette étude, c'était pour nous d'essayer de déterminer les origines de ces différences, de ces comportements discriminatoires à l'encontre des femmes pour tenter d'aller en direction de politiques à mettre en œuvre pour éliminer ces différences et ces discriminations à l'encontre des femmes. Mais je crois que pour avoir des mesures qui puissent être efficaces, il faut évidemment trouver où se situent véritablement les problèmes que rencontrent aujourd'hui les femmes sur le marché. Et puis, quatrième et dernière justification, qui à nos yeux est importante par rapport à la nouvelle loi sur l'égalité, la loi fédérale sur l'égalité, à l'article 5 de cette loi, alinéa 2, on évoque effectivement que les femmes qui ont subi une discrimination peuvent avoir droit à un dédommagement qui est calculé notamment sur la base du salaire auquel elles pourraient avoir droit sur le marché du travail. Et c'est cette notion de salaire auquel elles peuvent prétendre qui, évidemment, pose une question délicate. Comment évaluer effectivement ce salaire auquel des femmes peuvent avoir droit compte tenu de leurs caractéristiques. Alors la méthode que nous avons utilisée pour répondre à cette question en particulier, c'est simplement d'essayer de mettre en évidence comment aujourd'hui le marché du travail fonctionne, valorise certaines caractéristiques individuelles pour établir la rémunération des hommes et des femmes. J'insiste beaucoup sur ce point, en ce sens que le thème de cet après-midi, c'est penser autrement les inégalités. Nous, d'une certaine manière, on a d'abord essayé de voir comment le marché du travail pense les qualités des hommes et des femmes, comment aujourd'hui le marché du travail valorise ses caractéristiques. Ce qui ne signifie pas que ce soit les bonnes normes qu'il faille appliquer à l'avenir. Je pense que penser autrement la situation des hommes et des femmes, ce serait aussi trouver d'autres méthodes d'évaluation qui mettent moins l'accent sur des caractéristiques masculines. Aujourd'hui, le marché du travail, d'une certaine manière, adopte le comportement masculin comme étant la norme, et c'est par rapport à cette norme, d'une certaine manière, qu'il fixe le niveau de salaire. Donc notre travail, dans un premier temps, ça a véritablement été d'essayer de mettre en évidence ce fonctionnement du marché du travail en matière de fixation des rémunérations. Alors, on peut à ce niveau-là, évidemment, observer un certain nombre de choses. Ici, vous avez une observation qui montre notamment que le marché du travail tient compte des diplômes acquis par les hommes et les femmes pour fixer le niveau de rémunération. On observe sur cette figure, très simple, que manifestement, plus le niveau de formation des individus augmente et plus leur rémunération s'accroît. Première chose qu'on observe, donc manifestement, aujourd'hui, l'éducation est perçue comme un signe de productivité sur le marché et le marché du travail donc valorise cette caractéristique en offrant des rémunérations plus importantes pour les gens qui sont les plus formés. Vous avez sur la droite les hautes écoles, sur la gauche les personnes qui n'auraient que leur scolarité obligatoire. C'est une première chose qu'on observe. On observe simultanément le fait que les hommes sont systématiquement plus valorisés, un niveau de revenu plus élevé que celui des femmes. Le danger avec ce type de graphique, c'est qu'on a une relation entre une variable, l'éducation en l'occurrence, et le niveau de rémunération. C'est évidemment une observation un peu dangereuse parce que l'éducation va aussi simultanément agir sur les chances de promotion professionnelle. On peut penser effectivement que le niveau d'éducation influence aussi la promotion professionnelle, si bien qu'il est difficile, sur la base de ce seul graphique, de pouvoir en conclure que l'éducation soit le seul facteur déterminant et responsable de ce niveau de rémunération qu'on observe. Donc, vous l'avez compris, la difficulté principale dans ce type d'approche, c'est de pouvoir traiter simultanément tous les facteurs qui, aujourd'hui, sont pris en considération pour déterminer le niveau de salaire, et vous ne pouvez pas vous contenter d'un simple graphique tel que celui-ci, parce que vous ne parvenez pas véritablement à isoler complètement et totalement le poids spécifique de l'éducation dans ce niveau de rémunération. Et ceci, évidemment, vous emmène dans des sentiers qui deviennent plus difficiles, plus délicats, en ce sens qu'il vous faut travailler en prenant en considération toutes les variables qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent influencer le niveau de rémunération. Alors là, vous avez un tableau, comme j'ai l'habitude de dire, qui est tout à fait illisible, mais c'est un tableau peut-être qui vous permet de voir que nous n'avons pas seulement considéré la relation qui existe entre niveau de formation et niveau de salaire, mais que nous avons tenu compte simultanément de toutes les variables qui sont susceptibles d'influencer le niveau de rémunération des hommes et des femmes. Et cette liste que vous trouvez ici sur la gauche, plus ou moins lisible, vous indique tous les paramètres que nous avons pris en considération, outre l'éducation, pour déterminer ce niveau de salaire atteint par les femmes et les hommes. À côté de l'éducation, nous avons pris l'expérience comme nombre d'années passées sur le marché du travail de manière ininterrompue, pour voir dans quelle mesure le marché accorde une prime à cette expérience accumulée. Et nous avons distingué ce facteur de durée sur le marché du travail du facteur ancienneté par le fait que l'ancienneté mesure le nombre d'années qu'une personne a passé au sein du même établissement. Donc vous pouvez avoir passé 10 ans sur le marché du travail mais avoir bougé d'une place à l'autre, et vous pouvez avoir passé 10 ans sur le marché au sein du même établissement. Il nous faut séparer ces deux variables l'une de l'autre. Nous avons pris en considération, comme vous le voyez, l'état civil, la taille de l'entreprise, en partant de l'idée que si vous êtes dans une entreprise de plus grande taille, peut-être que les entreprises de plus grande taille offrent des salaires plus élevés à leur personnel. Le temps partiel, et là on retombe sur l'exposé de Mme Delsberger tout à l'heure, le temps partiel est-il valorisé, pénalisé sur le marché? Voilà la réponse qu'on attendait de cette variable. La couverture par les conventions collectives. Enfin, vous avez ici toutes les listes, et notamment, évidemment, plus bas, le niveau hiérarchique occupé par la personne. Donc ça, c'est toutes les variables que nous avons utilisées. Alors, je ne peux pas vous rentrer dans le détail, le temps qui m'est imparti est trop court, évidemment, mais j'aimerais simplement vous donner quelques-uns des résultats que nous avons obtenus et qui sont simplement la mise en évidence de quelque chose qui fonctionne implicitement dans le marché du travail sans que ces normes soient clairement toujours explicitées. Quelques résultats qui me paraissaient peut-être intéressants à évoquer. Tout d'abord, au niveau de l'éducation, on l'a vu, le paramètre éducatif, manifestement, influence le niveau de rémunération. Ceci a été confirmé par notre étude, que ce soit au niveau suisse ou au niveau genevois, avec des différences. Ce qui est apparent, c'est que l'éducation a un poids important sur le niveau des salaires des hommes et des femmes, mais le marché du travail valorise toutes choses égales par ailleurs pour une femme qui aurait exactement les mêmes caractéristiques qu'un homme. Même type d'occupation, même secteur d'activité, même position hiérarchique, et on constate que l'homme obtient une pénalité tout à fait discriminatoire de plus 0,3% par rapport à une femme qui aurait consenti le même effort d'investissement. Autre facteur, celui de l'expérience, et on le retrouve aussi d'ailleurs au niveau de l'ancienneté, l'expérience est également valorisée sur le marché du travail. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que cette norme-là, aujourd'hui, est acceptable, acceptée. C'est une norme qui, évidemment, pénalise les femmes, on le voit. Elles n'obtiennent que 1,9% de plus pour chaque année passée sur le marché du travail. Les hommes en obtiennent 2,4%. Elles sont pénalisées, d'une part, parce qu'elles sont moins bien valorisées sur ce critère-là, et puis d'autre part, parce que, compte tenu de leurs interruptions de carrière, assez fréquente encore en Suisse, eh bien, c'est un facteur qui vient encore renforcer les différences de salaire. Et c'est aussi une question, sans doute, pour penser autrement les inégalités qu'il faudrait se poser. Le temps partiel, là, on retombe sur une considération que faisait tout à l'heure Mme Delsberger. Il est intéressant de constater à quel point le temps partiel, c'est vrai pour Genève, c'est vrai pour la Suisse, à quel point le temps partiel était encore considéré comme quelque chose d'atypique, pour utiliser un mot comme Mme Delsberger, un peu moins utilisé maintenant, je crois, aujourd'hui, mais ça se traduit par le fait que pour un homme qui travaille à temps partiel, eh bien, il subit une pénalité horaire de son salaire de 3,8%. Cette pénalité existe pour les femmes, elle est un peu moins forte, 1,2%. Et d'une certaine manière, on pourrait dire peut-être que sur ce plan, les femmes sont un peu plus proches d'une forme d'emploi qui aujourd'hui augmente manifestement sur le marché du travail. Et j'y reviendrai. On est en train d'assister en Suisse à des mutations profondes du marché du travail, et c'est peut-être un temps propice pour des réflexions sur la relation homme-femme, mais aussi sur la relation entre les hommes et les femmes face au travail et face à ces mutations. Quelques autres résultats. C'est toujours ce résultat particulièrement cocasse sur le mariage, où on observe effectivement, c'est les 5 minutes qui me restent, 5 ou c'est une 4. On est entre deux. Enfin, je vais essayer de m'y tenir. Le mariage, les hommes mariés gagnent 3,3% de plus que les hommes célibataires. Signe peut-être que les employeurs estiment que ces personnes sont plus stables, vont rester en emploi dans cette entreprise éventuellement. Les femmes, par contre, qui sont mariées et qui travaillent, obtiennent une pénalité, subissent une pénalité de 0,8% par rapport aux femmes célibataires. C'est un peu la norme intériorisée par les entreprises qui considèrent qu'une femme mariée a de très fortes chances de se retirer du marché du travail, et d'une manière ou d'une autre, l'employeur pénalise ce mariage. Position hiérarchique, c'est le dernier point que je voulais encore relever. Avec des hommes, quand ils sont promus cadres supérieurs, qui obtiennent une augmentation de salaire de 33%, l'augmentation pour les femmes n'est que de 23%. Voilà donc quelques-uns des résultats que nous avons obtenus. Et le résultat final, ça a été évidemment, à partir des différences totales de salaire que l'on observait, de distinguer entre la différence de salaire due à un comportement discriminatoire, lié au fait que l'éducation chez les femmes est moins bien valorisée, lié au fait que l'expérience est moins bien valorisée, et puis la différence qui est due au fait que les femmes, aujourd'hui encore, ont un nombre d'années d'expérience d'ancienneté moins élevé que les hommes. Et cette analyse nous a permis de constater que sur Genève, par exemple, sur 1000 francs de salaire qui existent entre les hommes et les femmes, il y avait 400 francs qui sont dus à des discriminations du marché du travail. C'est les facteurs que j'évoquais tout à l'heure. Le fait que même si une femme est promue cadre supérieur, son augmentation de salaire est plus faible que celui d'un homme. Même si une femme a accumulé des années d'éducation supplémentaire, elle est moins bien valorisée qu'un homme. Et cette différence discriminatoire représente sur Genève 400 francs sur les 1000 de différence. Et les 600 francs restants sont les 600 francs qui sont dus au fait qu'aujourd'hui, le marché du travail utilise pour valoriser le travail des hommes et des femmes des caractéristiques telles que l'expérience, l'ancienneté. D'une certaine manière, l'employeur peut se réfugier derrière ces critères qu'il utilise pour dire, bien, écoutez, les femmes qui sont dans mon entreprise n'ont pas le même nombre d'années d'expérience, n'ont pas le même nombre d'années d'ancienneté, donc je leur verse un salaire qui est moins élevé, mais vous ne pouvez pas m'accuser de discrimination. Mais c'est vrai que dans le même temps, le marché du travail, les employeurs utilisent des critères pour valoriser qui sont tout à fait discutables. Et c'est en ce sens que, par rapport à la question qui était posée aujourd'hui, il me semble que l'étape suivante, penser autrement les inégalités, c'est aller un peu en direction du travail qui avait été fait par, je ne sais pas si c'est un groupe, mais enfin c'est la méthode Abacaba, qui consiste véritablement à penser différemment la fixation, la valorisation des qualités individuelles, pouvoir tenir compte aussi de certaines caractéristiques qui sont en général plus proches des femmes pour déterminer le niveau des salaires. Donc je crois que penser autrement les inégalités, c'est aussi aller dans cette direction, trouver des nouvelles formes de valorisation du travail rémunéré. Et je conclurai simplement ma présentation en disant très brièvement qu'il me semble qu'aujourd'hui, le temps est peut-être difficile d'un certain point de vue pour réfléchir à ces problèmes de relations hommes-femmes. On sait fort bien que le chômage est important et que ça rend peut-être pas nécessairement facile des actions des femmes auprès de la justice pour discrimination, mais dans le même temps, par rapport aux mutations qui affectent le marché du travail, c'est peut-être un moment propice pour penser, repenser le travail masculin et féminin face à la collectivité, face à la société, et ça permettrait peut-être de faire avancer un certain nombre de revendications féminines. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Je donne la parole à Lucienne Gillot du Bureau de l'égalité des droits entre les femmes qui a...
Il y a un lien avec le fait que la science était faite par les hommes principalement. Alors, les premières qui vont attirer l'attention sur ce phénomène, ce sont les féministes qui travaillent sur le terrain des femmes battues. Ça se passe dans les pays anglo-saxons dans les années 70. Et là, elle commence à mettre le problème sur la place publique, à en parler, à agiter l'opinion publique. Et c'est à partir de ce moment-là que les sciences sociales vont s'y intéresser. Et là, nous avons un cas intéressant au plan épistémologique, de comment un champ scientifique a pu être enrichi grâce à l'apport de féministes sur le terrain. Alors, j'en viens peut-être maintenant un peu plus précisément à la recherche que nous avons menée avec deux collègues.
Voilà, donc nous étions trois à faire cette recherche, deux sociologues, Jacqueline Decuy et moi-même, Véronique Ducré, et l'étude s'intitule « Rapport de domination et violence envers les femmes dans la famille ».
Deux mots peut-être sur l'objet. Vous avez vu qu'il n'y a pas seulement violence, il y a rapport de domination. L'objet visé par la sociologie, ça ne peut pas être la violence. La violence est un fait, c'est un fait brut, je dirais, mais qui n'a pas de pertinence sociologique en tant que telle. En effet, entre la violence d'un dominant et la violence du dominé, par exemple, ce n'est pas la même chose. Je prends un exemple. Par violence du dominant, j'appelle, par exemple, la violence de l'homme blanc qui va faire du tourisme sexuel en s'offrant des enfants dans le tiers-monde. C'est ce que j'appelle la violence du dominant. Eh bien, entre ce type de violence-là et la violence du dominé, qui serait, par exemple, le jeune de banlieue qui n'a pas de travail, qui est au chômage, qui est de parents immigrés, etc., et qui casse parce qu'il veut réagir contre une société qui l'exclut, eh bien, je dirais qu'entre ces deux phénomènes-là, qui sont tous les deux des phénomènes violents, il y a peu de choses en commun, et la sociologie se doit de les distinguer sous peine d'amalgamer des choses qui n'ont rien à faire. D'où notre objet, c'est les rapports de domination entre hommes et femmes et la violence dans le couple. Les objectifs de cette recherche... connaître l'ampleur de la violence conjugale. Vous savez qu'on manque cruellement de chiffres. En Suisse, on ne possède pas de statistiques sur les cas de violence conjugale. On n'a même pas de chiffres ni au niveau fédéral ni au niveau cantonal. On a des statistiques de maisons pour femmes battues, mais évidemment, c'est la petite pointe visible de l'iceberg. Mais on n'a tout simplement pas de chiffres et on n'a même pas des estimations. La France vous dit, par exemple, qu'il y a 2 à 3 millions de femmes battues suite à des estimations faites. Pour la Suisse, on n'était même pas capable d'avancer un chiffre. On n'avait aucune idée. Donc, notre tout premier objectif était de chiffrer pour montrer que ça existe et pour montrer son ampleur.
Deuxième objectif, étudier les conséquences de la violence à travers la parole des femmes, entendre ce qu'elles nous disent de cette violence, quel effet ça a sur elles. Troisième point, les facteurs qui l'entraînent. Là, on s'intéressait plus spécialement aux facteurs familiaux. On voulait, en comparant les familles avec violence et les familles sans violence, essayer de repérer des facteurs microsociaux, donc au niveau familial, qui sont porteurs de violence. Et puis, dernier point, les stratégies des femmes violentées. On voulait voir qu'est-ce qu'elles font. On mettait un peu en doute au point de départ cette idée que la femme violentée est passive et ne fait rien pour en sortir. On a vu effectivement qu'elle faisait beaucoup de choses et qu'elle dépense beaucoup d'énergie pour faire face à la violence. Et donc, on a étudié un peu leur stratégie. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de tout traiter, donc je vais me limiter à l'ampleur de la violence et aux facteurs qui l'entraînent.
Alors, l'étude comprend deux grands volets. Un volet quantitatif, on a interviewé 1500 femmes âgées de 20 à 60 ans dans toute la Suisse, pas dans le Tessin, mais dans toute la Suisse, romande et alémanique. Et nous avions une population de 1500 personnes. Ça, c'est la première partie, le qualitatif, qui a fait l'objet d'un traitement statistique. Et la deuxième partie, c'est une enquête qualitative où on voulait avoir les témoignages de 30 femmes violentées qui nous racontaient ce qu'elles avaient vécu et ce qu'elles avaient ressenti en vivant ces violences. Alors, peut-être un point de méthode intéressant, puisqu'il est aussi question de traiter des méthodes cet après-midi. Il faut que vous sachiez que pendant très longtemps, au début des études féministes, des women's studies, les méthodes quantitatives étaient tonies. On disait ça, c'est des méthodes masculines, ce qui n'est pas dénué de tout fondement d'ailleurs. C'est des méthodes masculines qui ne correspondent pas aux besoins des femmes et aux problèmes des femmes. Et les féministes des premiers temps des recherches féministes ne voulaient absolument pas entendre de parler de recherche quantitative. Par la suite, les choses ont évolué et à l'heure actuelle, on admet que les deux méthodes ont leur quantitative et qualitative, ont leur intérêt et qu'il s'agit de les employer conjointement ou en tout cas de les employer dans une perspective, je dirais, vigilante où on ne se laisse. C'est vrai qu'il y a parfois des pièges à employer certaines méthodes quantitatives, mais l'idée était de les utiliser de façon réfléchie et vigilante. Donc voilà, nous avons pris le parti de traiter ces deux méthodes comme complémentaires. C'est vrai qu'à travers du quantitatif purement, on fait en quelque sorte, si j'ose dire, violence aux femmes que l'on interroge, puisqu'on a un questionnaire et on les mitraille. Hein, c'était un questionnaire téléphonique en l'occurrence, et on leur a posé une centaine de questions en 20 minutes. Tac, 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 il faut que ça aille vite parce que ça coûte cher. Donc c'est vrai que d'un certain côté, c'est d'un point de vue féministe, si vous voulez, c'est un peu gênant de traiter les gens comme ça, comme des machines à répondre. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de faire aussi une analyse qualitative où là alors on était dans une posture d'écoute et les femmes pouvaient nous dire, on avait évidemment un guide d'entretien, mais les femmes pouvaient nous dire plus longuement ce qu'elles avaient à dire, ce qui était important et peut-être des choses auxquelles nous n'avions pas pensé hein, dans notre partie quantitative. Alors, j'en viens tout de suite aux résultats, mais évidemment, des résultats, des pourcentages ne veulent rien dire indépendamment des méthodes. J'ai été souvent frappée de voir les journalistes qui disaient « Alors, combien de pourcents ?» Et puis, ça n'a autant que vous savez pas comment la violence est définie et comment vous avez produit vos résultats, eh bien, on peut faire varier le pourcentage de femmes violentées entre 5 et 50%. Il suffit d'élargir la définition. Donc, je vais vous montrer comment nous avons défini cette violence.